En bas de l'écran. C'est moi qui en assure la présentation en tant qu'animateur de ce projet pour le RMT. Cela dit, la principale contributrice est Marion Vigot, qui travaille actuellement à la Chambre régionale Poitou-Charentes, donc qui a été la cheville ouvrière de ce travail, dans un premier temps sur une application dans le Loiret et dans un deuxième temps en Poitou-Charentes. Alors, en guise d'introduction, je ne vais pas rappeler pourquoi c'est important de se préoccuper de l'évolution des stocks de carbone dans les sols agricoles. Je suppose que les enjeux sont connus, surtout dans une instance comme la nôtre. Par contre, je vais plutôt rappeler pourquoi c'est important de se poser cette question à l'échelle d'un territoire. Alors, il y a plusieurs objectifs pour plusieurs catégories d'acteurs. Si on cherche à produire des références agronomiques pour le conseil auprès des agriculteurs sur la gestion de la matière organique de leur sol, on a besoin d'abord d'identifier les grandes situations types qui sont présentes sur le territoire, repérer les situations à problème pour pouvoir rechercher des solutions d'amélioration. Si au contraire, on cherche à gérer durablement des filières de recyclage de produits organiques, ou au contraire des filières d'exportation de biomasse agricole à destination énergétique ou tout autre usage non alimentaire, on peut avoir besoin d'essayer d'identifier sur le territoire les zones excédentaires et à l'opposé les zones qui sont déficitaires. Et puis enfin, si on est en position d'essayer d'élaborer des politiques régionales visant l'atténuation du changement climatique, on a besoin de prendre en compte les impacts de l'activité agricole sur cet aspect-là. Et donc, on a besoin d'éléments pour identifier les impacts des systèmes de culture, notamment sur le stockage ou le déstockage du carbone. Dans tous les cas, on a besoin de réaliser à l'échelle du territoire, d'une part, des diagnostics pour finalement repérer les grandes dynamiques d'évolution en termes de stockage, déstockage ou simplement équilibre dans les stocks de carbone, pour repérer les situations à améliorer, identifier éventuellement des complémentarités entre territoires. Et puis on a besoin aussi de réaliser également des simulations pour concevoir des systèmes alternatifs qui vont être plutôt identifiés et conçus à l'échelle de cas type, et puis évaluer globalement les effets à l'échelle du territoire. Donc une multitude d'utilisations qui justifient cette approche-là. En termes de méthode, l'outil de base que nous avons utilisé et qui est largement utilisé au niveau national, il a déjà été présenté à plusieurs reprises dans cette instance, donc je ne vais pas le redétailler. C'est le modèle AMG qui a fait l'objet également d'un développement informatique d'un simulateur par agrotransfert ressources et territoires en collaboration avec l'INRA. Donc, je rappelle simplement que c'est basé sur l'établissement d'un bilan humique et d'une simulation de l'évolution à long terme, c'est-à-dire 50 ou 100 ans de l'évolution des stocks de carbone, en supposant que le système est constant, et ça intègre à la fois le paramètre pédoclimatique, les caractéristiques des systèmes de culture et le stock de carbone initial. Donc, face à ces outils, face aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, la problématique ou les objectifs qu'on s'est fixés dans ces travaux du RMT, c'était d'une part, vous comprenez, changer d'échelle, puisque l'outil AMG fonctionne normalement à la parcelle, représenter à l'échelle du territoire la diversité des situations agronomiques, donc en termes de combinaison sol, système de culture et carbone organique, de façon à les caractériser, les localiser, évaluer leurs proportions sur le territoire, et puis, pour faire tourner l'application AMG, renseigner les variables d'entrée du modèle qui s'appelle du simulateur qui s'appelle Simeos AMG. Avec une dernière contrainte qui était importante dans le projet du RMT, c'était de faire tout ça en utilisant des sources de données qui sont largement disponibles dans les régions. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? La démarche générale, elle s'appuie donc sur plusieurs sources de données. D'abord, le registre parcellaire graphique, c'est-à-dire l'information renseignée par les agriculteurs dans leur déclaration PAC sur leur culture, sur les surfaces correspondantes par îlot Et on a travaillé sur une succession de 4 années de façon à reconstituer des successions de cultures. Deuxième source d'information, on l'a évoqué ce matin, donc je ne reviendrai pas en détail, la base de données d'analyse de terre, en utilisant des analyses de carbone organique géoréférencées à la commune. Troisième source d'information, il nous faut forcément des données sur les sols. Et donc là, on exploite le référentiel régional pédologique, qui nous fournit des unités cartographiques de sols représentées à l'échelle du 1/250 millième. Et dans chaque unité cartographique de sol, on connaît les types de sols qui sont présents, mais aussi on connaît aussi la proportion de ces types de sols. Dans une unité, il y a en général plusieurs types de sols. Méthode de travail pour combiner tout ça, c'est essentiellement d'abord basé sur le croisement spatial de ces unités de travail, pour aboutir d'une part à un inventaire des rotations de culture par type de sol recensé sur le territoire. Alors on mobilise pour ça évidemment les successions de cultures, combinées à des modèles agronomiques de rotation, et puis à des règles agronomiques d'exclusion de certaines cultures sur certains types de sols. Dans un deuxième temps, on affecte à chaque type de sol identifié sur le territoire les analyses de terre qui s'y rattachent avec la plus forte probabilité. Et là encore, c'est le croisement spatial qui nous donne une indication de la probabilité d'appartenance des analyses d'une commune à chacun des types de sols. Donc, en fonction de ces deux séries d'informations, on reconstitue sur le territoire un ensemble de combinaisons sol, rotation de culture, et puis teneur ou plutôt stock de carbone organique actuel, en prenant ici la médiane des teneurs qui ont été identifiées à partir de la BDAT. Alors, je précise que la méthode elle a été mise au point et testée dans deux contextes, dans un premier temps dans le Loiret, dans un deuxième temps donc en Poitou-Charentes. Alors, pas totalement sur l'ensemble du territoire, on a travaillé sur 4 zones test qui correspondent à 4 petites régions naturelles. Et dans chaque petite région naturelle, on a sélectionné 3 unités cartographiques de sol représentatives. La plupart des exemples que je vais prendre pour montrer les résultats vont concerner ce qu'on appelle les terres rouges de la Vienne, donc qui sont représentées justement en rouge sur cette carte. Donc des unités cartographiques représentatives de petites régions naturelles. Pour compléter la description des systèmes de culture, donc des rotations, il faut y associer des pratiques culturales, des éléments d'itinéraire technique et des rendements pour renseigner le modèle. On exploite à ce moment-là deux sources d'informations, d'une part les experts agronomiques locaux, et puis le laboratoire agronomique régional qui détient des bases de données avec les renseignements agronomiques fournis par les agriculteurs lorsqu'ils font une analyse. Donc des renseignements notamment sur leurs pratiques et sur leurs rendements. Alors en Poitou-Charentes, c'est surtout les deux situations, dans les deux départements, les deux régions étudiées, on a travaillé soit avec la base issue du logiciel Azofert, soit avec la base issue de Régifert. En Poitou-Charentes, c'est quand même majoritairement les experts locaux qui ont fourni l'information, notamment sous forme d'une typologie des pratiques de restitution organique que vous avez ici. Donc 4 grands types de pratiques en matière de restitution organique, c'est-à-dire restitution des pailles, gestion des pailles, apport organique, et puis type de maïs, maïs en silage ou maïs grain, qui restitue des biomasses qui sont totalement différentes. Les experts ont été capables aussi, avec moins de certitude, mais on a été obligé de faire avec, nous ont indiqué aussi la proportion de ces grands types de pratiques en fonction des petites régions naturelles étudiées. Donc par exemple, ici, le système, dans les terres rouges de la Vienne, le système céréalier est largement dominant, alors que le système polyculture-élevage vient en second lieu. La base de Régifert nous a donné des informations sur les rendements moyens par petite région naturelle. Dans le Loiret, on a pu exploiter une information plus riche qui a pu nous donner des rendements estimés de manière plus fine, non seulement par petite région naturelle, mais par classe de réserve utile des sols. Et puis, ça nous a permis également de préciser un petit peu mieux les pratiques agricoles. Alors, quelques éléments de résultats à plusieurs niveaux. D'abord, des résultats en termes de données de base sur la connaissance du territoire, donc connaissance du statut organique actuel. On a voulu aboutir en Poitou-Charente sur une carte qui représente ici par unité cartographique de sol. Et là, on a travaillé sur l'ensemble du territoire qui nous donne une teneur en matière organique par unité cartographique de sol. Cette carte peut être ensuite, moyennant certaines hypothèses, ici c'est des moyennes par unité cartographique qui sont présentées, moyennant certaines hypothèses, on peut transformer cette carte des teneurs en carte des stocks, avec une précaution d'interprétation, compte tenu de l'origine des données, des analyses de terres essentiellement réalisées sur des terres cultivées, ces stocks et ces teneurs ne sont nullement représentatifs des régions de prairies qui sont importantes dans certains départements, notamment dans les Deux-Sèvres. Deuxième série de résultats, toujours dans les données de base sur le territoire, la connaissance des rotations culturales, connaissance assez fine des rotations culturales sur le territoire. Par exemple, toujours dans le secteur des terres rouges de la Vienne, on aboutit à une description des principales rotations affectées de leur proportion, de leur part surfacique. Donc ici, on voit que dans ce secteur des terres rouges de la Vienne, où là, vous avez les données moyennes sur les trois unités cartographiques, vous avez dans les systèmes non irrigués, c'est une dominante de cols à blé. Dans les systèmes irrigués, logiquement, on retrouve une dominante de monoculture de maïs. On obtient ce qu'on appelle dans notre jargon des assolements de rotation, c'est-à-dire des rotations affectées à la part surfacique sur le territoire, soit par unité cartographique de sol, soit pour chacun des types de sols identifiés sur le secteur d'étude. Deuxième série de résultats, donc là on passe aux résultats des simulations à l'aide de Simeos AMG. On peut dans un premier temps caractériser chacun des cas types qui ont été identifiés par une simulation de l'évolution à long terme des stocks de carbone. Vous avez par exemple ici, dans un type de sol donné, des terres rouges moyennement profondes de la Vienne. Pour une rotation donnée, qui est ici colza blé, tournesol blé, pour les différents types de pratiques qui ont été identifiés précédemment, et pour un stock de carbone donné, vous avez une évolution qui se traduit ici par une tendance, une dynamique générale de déstockage du carbone. À titre de comparaison, dans le même type de sol, si on s'intéresse à un autre système de culture qui est ici la monoculture de maïs irrigué, on voit qu'une tendance complètement différente, on est en gros à l'équilibre. On voit aussi qu'il peut y avoir aussi, avec le même système de culture, si on change de type de sol, on peut avoir des évolutions totalement différentes. Ici, sur un type de sol plus argileux, avec un stock initial plutôt plus faible, on est dans une dynamique de stockage. Donc c'est un premier niveau d'approche. On peut ensuite, évidemment, c'est pour ça qu'on a travaillé, avoir des éléments de synthèse à l'échelle du territoire. Donc si je combine l'ensemble des situations agronomiques, c'est-à-dire différents types de sols croisés avec les différentes rotations, les différents types de pratiques et les stocks de carbone organique initiaux, on peut faire une synthèse sous forme de différents indicateurs globaux sur le territoire. Par exemple, sur les trois unités cartographiques, vous avez ici en rouge la proportion des surfaces qui sont en dynamique de déstockage, et en vert, la proportion des surfaces qui sont en dynamique de stockage du carbone. Et puis en jaune, les situations qui sont globalement à l'équilibre. C'est un premier indicateur. Donc ici, dans les terres rouges de la Vienne, en gros, si on pondère par la surface respective des trois unités, il y a à peu près 30% de la surface en dynamique de déstockage. Un autre indicateur possible, si on moyenne sur 50 ans l'évolution des taux de carbone, on peut donner une valeur chiffrée soit des gains, soit des pertes en termes de tonnes de carbone par hectare et par an dans les différents secteurs. Avec ici, on s'est même risqué ensuite d'exprimer ces valeurs-là en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre agricole de la région. Après cette phase plutôt de diagnostic, on peut simuler des changements de pratique. Donc, ce qui a été fait ici, c'est de simuler l'effet de la généralisation des cultures intermédiaires. À partir d'une situation sans culture intermédiaire, vous avez plutôt une dynamique de déstockage. Premier résultat un peu décevant, si on généralise les cultures intermédiaires dans ce territoire, il ne se passe pas grand-chose, ça n'améliore pas significativement la situation. Rassurez-vous, si par contre on se place dans un autre milieu, les droits du Nord-Charente, qui sont dans une situation qui est un peu plus favorable, mais pas énormément, si on simule l'impact des cultures intermédiaires, on a quelque chose, une situation qui s'améliore très très significativement. Et donc là, il y a deux explications. C'est d'une part un effet type de sol, plus argileux, plus calcaire. D'autre part, un effet système de culture. Dans les groies du Nord-Charente, c'est des successions blé-tournesol qui permettent d'implanter des cultures intermédiaires productives, alors que dans les terres rouges de la Vienne, c'est des successions blé-colza pour lesquelles les capacités de production de biomasse par une culture intermédiaire ou par un couvert hivernal sont beaucoup plus limitées. Alors, pour conclure, des éléments de bilan sur ce travail, surtout à portée méthodologique et puis sur quelques perspectives. Les forces de ce qui a été réalisé sont d'abord liées au modèle utilisé, qui est assez simple et qui est assez bien paramétré pour prendre en compte une diversité de situations dans les systèmes de grande culture. Autre élément qui nous paraît intéressant, c'est la transposabilité de la méthode d'une région à l'autre, permise par la source des données qui est disponible assez largement au niveau national, et puis une diversité des échelles de sortie que j'ai essayé de vous montrer. Les faiblesses, c'est que pour l'instant, je pense qu'il faudra toujours injecter l'expertise agronomique à plusieurs étapes de la méthode. Des faiblesses aussi sur les données du registre parcellaire graphique qui nous donne des groupes de cultures, et il faut quelquefois se poser la question parce qu'on ne fait pas la différence entre du maïs grain et du maïs en silage, par exemple. Et puis, d'autres éléments qui sont un peu pénalisants, la spatialisation des types de sols est peu précise, la variabilité du stock de carbone initial, il faudrait la prendre en compte davantage, et puis, pour l'instant, on ne sait pas traiter des systèmes de culture pérennes, arboriculture, voire prairies permanentes. Alors, en perspective de ce travail-là, le relais a été pris par un projet qui s'appelle ABC Terre, donc qui résulte d'une réponse à un appel d'offres de l'ADEME. Vous avez les différents partenaires qui apparaissent dans les logos en bas. C'est AgroTransfert Ressources et Territoires qui est le pilote de ce projet, dont l'objectif, c'est l'atténuation du bilan de gaz à effet de serre agricole intégrant le carbone du sol sur un territoire. La première action, c'est améliorer et valider la méthode que je viens de vous présenter. La deuxième action, c'est exploiter, c'est valoriser ces résultats en mettant au point une méthode d'estimation du bilan net de gaz à effet de serre à l'échelle de systèmes de culture, mais qui intègre le bilan du carbone organique du sol, ce que pour l'instant, on ne fait pas très, très, très bien dans les méthodes courantes. Et ensuite, fort de ces avancées en termes de méthode, l'idée, c'est d'appliquer ça à l'évaluation de scénarios de changement de pratique à l'échelle de territoire, et donc il y a deux territoires qui vont être étudiés, en Alsace avec une problématique de lutte contre l'érosion et en Picardie avec une problématique d'introduction des légumineuses dans les systèmes de culture. Voilà, il est prévu également le transfert des outils et des méthodes à une diversité d'utilisateurs. Alors, quelques éléments qui sont des premiers résultats d'ABCTR, hein, qui sont des améliorations en cours de la méthode que je vous ai présentée. D'abord, pour l'affectation des analyses de la BDAT au type de sol, il y a des travaux qui ont été menés à AgroCampus Ouest par Blandine Lemercier, qui ont mis au point une méthode qu'on espère plus précise. Ça reste encore à valider pour affecter les analyses de terre au type de sol, en se basant sur leur teneur en calcaire et en argile notamment. Et ensuite, il y a tout un travail d'amélioration de la procédure de reconstitution des assolements de rotation. Les progrès attendus, c'est l'automatisation, et notamment le développement d'un outil qui s'appelle RPG Explorer, qui devrait faciliter le traitement des données, ou reconstituer les rotations sous différents types de contraintes, notamment les règles agronomiques, en collaboration avec l'UMR SADAPT d'AgroParisTech. Et puis, l'affectation des rotations au type de sol également est en voie d'automatisation et d'intégration à ce même outil RPG Explorer. Je termine sur D'autres perspectives du travail que je viens de vous présenter. Il nous semble que c'est un exemple, parmi d'autres, de modélisation de la diversité des systèmes de culture sur un territoire en relation explicite avec des types de sols. Donc, des systèmes de culture en relation avec des types de sols, ça peut servir à autre chose que de s'intéresser au carbone organique. Donc, peut-être que cette approche pourrait être valorisée sur d'autres problématiques de territoire. Et puis, il y aurait très certainement à gagner à rapprocher cette approche-là avec d'autres approches similaires. Je pense notamment aux travaux qui sont menés à Arvalis dans leur méthode dite de segmentation. Je pense qu'il y a des similitudes, il y a des complémentarités qui permettraient de faire de la fertilisation croisée, si j'ose dire, dans cette instance. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Bravo.
Alors, pour la séance de questions, je pense qu'il y a des micros, mais ils sont peut-être restés là-haut. On sait. Est-ce que je peux avoir un volontaire pour Marc ? Merci. Désolé, on improvise. Hein. Je signale là-haut pour... voilà. Et vous pouvez vous signaler pour les premières questions. Voilà, on retrouve des thèmes évoqués ce matin sur l'identification des types de sols et les rotations. Et le couplage de ces données est essentiel pour ces approches territoires. Hein, c'est ce que j'en retiens. Alors, oui, une question ici.
Une question de détail concernant les...
Merci de vous présenter,
oui,
même
alors,
si vous l'avez déjà
Christian,
fait ce matin.
Christian Dersigny de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Je voulais avoir une précision sur l'effet couvert végétal. Est-ce que tu es parti de l'hypothèse qu'au départ, il n'y en avait pas du tout ou est-ce
Oui,
que...
on a fait deux scénarios complètement extrêmes. Première hypothèse, il n'y en a pas du tout. Et deuxième hypothèse, c'est généralisé.
D'accord. Merci.
D'autres questions ? Là-bas, peut-être ? Ouais. Signalez-vous. Hein, je... Voilà, le micro arrive. N'hésitez pas à poser des questions. On est en plus petit nombre, donc ça devrait faciliter les échanges.
Antoine Khalil, au Vinalp. J'ai une question par rapport au stockage et déstockage de matières organiques dans les sols. Est-ce que vous avez pu identifier les phénomènes ou bien les pratiques qui sont responsables de ce stockage ou déstockage ?
Alors, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais il y a des éléments qui sont connus et qui sont intégrés, d'ailleurs, dans le simulateur Simeos AMG. Donc, on sait très bien qu'il y a un effet, si je simplifie beaucoup, on sait très bien qu'il y a un effet type de sol, c'est-à-dire plus les sols, en gros, riches en argile et en calcaire, sont favorables à des situations de stockage. Après, l'effet système de culture, c'est le bilan entrée-sortie. Hein, donc, c'est en particulier la quantité de biomasse restituée par les résidus de récolte, complétée par des apports organiques extérieurs. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ce n'était pas l'objectif de notre... J'ai montré un exemple où on voit bien qu'il y a à la fois, dans la génération des cultures intermédiaires, on voit bien qu'il y a à la fois un effet type de sol et un effet quantité de biomasse enfouie. Après, il y a la qualité de la biomasse qui intervient également.
Merci.
Pierre-Yves Tourlière, Team Acagro. La notion de pratique culturelle, justement, le labour, technique culturelle simplifiée, semi, enfin...
Oui, alors c'est l'avantage du modèle AMG, c'est-à-dire qu'on est capable de tenir compte des pratiques de labour ou au contraire de la fréquence du labour et également des pratiques de non-labour qui peuvent intervenir, soit être systématiques, soit intervenir... une année sur deux dans la rotation, c'est pris en compte. La difficulté, c'est d'identifier pratiquement, à l'échelle du territoire, de trouver des informations suffisamment fiables, au-delà du dire d'expert, pour renseigner ces informations à l'échelle du territoire.
C'est-à-dire, juste pour compléter ma question, est-ce que, justement, au niveau cartographique, on peut isoler, à l'échelle régionale, les zones qui sont parties plus majoritairement dans des techniques culturelles simplifiées, c'est-à-dire plutôt zones de grande culture et stockage carbone ou et zone polyculture élevage labour avec plus de déstockage.
C'est pas une question qu'on a étudiée. Je pense qu'on n'est pas à un niveau. L'effet n'est pas suffisamment. Les pratiques sont pas suffisamment généralisées et l'effet n'est pas suffisamment, à mon avis, fort pour que ça se traduise. Je pense que c'est encore mineur par rapport à l'effet système de culture, c'est-à-dire quantité de biomasse enfouie et type de sol. Mais c'est, pour l'instant, on manque de données pour spatialiser cette information-là. Hein. On a essayé de le faire dans le Loiret avec la base de données Azofert. On a quelques informations, mais ce n'est pas suffisant pour être capable de cartographier précisément les zones où il y a une forte dominante de non-labour et les zones avec du labour systématique.
Une dernière question ? Christian ? Oui, ici devant. Ah, pardon.
Oui, donc j'avais deux questions, c'est peut-être beaucoup. La première, c'est que est-ce que AMG prend en compte les prairies temporaires ? Parce que vous avez parlé que ça ne prenait pas en compte les prairies permanentes, mais temporaires.
Bonne question. Il me semble que oui. Il me semble que oui, mais je ne suis pas le concepteur d'AMG, donc nous, on a utilisé l'outil. Il me semble que oui.
Alors, la deuxième question, c'est pour rejoindre les discussions qu'on avait ce matin par rapport à la méthanisation. Les agriculteurs qui se lancent à la méthanisation s'interrogent beaucoup sur la question suivante, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre le carbone qu'ils produisent de leur déjection ou leur déchet de culture dans le sol pour maintenir le taux de carbone, maintenir la structure de leur sol, ou dans le digesteur ? Et est-ce que le carbone qui va retourner du digesteur, est-ce qu'il aura le même effet sur le sol et en particulier sur le stockage du carbone ? Alors la question, c'est est-ce que votre approche AMG plus territoire peut les aider à répondre à cette question ?
Là, je n'ai pas d'éléments de réponse à cette question. Je pense qu'il faudrait interroger les gens qui travaillent sur le modèle AMG, donc à la fois les gens de l'INRA et puis AgroTransfer. Je pense qu'ils se sont posé cette question, mais je n'ai pas d'éléments de réponse sur finalement le devenir de comparé du carbone enfoui par les digestats et du carbone brut issu de la biomasse. Je n'ai pas d'éléments.
On va clore cette phase de discussion. Christian, tu avais une dernière question ? On peut la prendre rapide, si elle est rapide. Voilà.
En fait, ce type d'outil permet de faire des diagnostics sur des statuts organiques des sols sur un territoire assez grand. Donc, ce que j'ai bien vu, c'est le statut actuel. Ce que j'ai bien moins bien vu dans ta présentation, c'est comment ça évolue actuellement, de façon globale. Est-ce qu'on est plutôt dans une région où on perd du carbone dans les sols ? Est-ce qu'on est en train d'en stocker ? Voilà. Est-ce que ça permet de faire ce type de diagnostic qui est important, hein, l'évolution dans toutes les sphères scientifiques, en particulier où on s'intéresse à l'avenir du stockage du carbone dans les sols ?
Bah, un élément de réponse, c'est ce type de graphique. Je l'ai fait à l'échelle de 3 unités cartographiques de sol. On peut le faire globalement à l'échelle de l'ensemble d'une petite région naturelle ou pourquoi pas à l'échelle de l'ensemble d'une région. Alors, avec un bémol, c'est que ça ne prend en compte que les systèmes de grande culture. Et si là, on voit bien, on est bien capable de dire la proportion tu as une évaluation globale sur l'ensemble du territoire, là, qui moyenne les différentes unités cartographiques de sol. Si on sait le faire sur une petite région naturelle, on sait le faire sur l'ensemble de la région. Donc ici, en l'occurrence, dans ce secteur des terres rouges de la Vienne, on est globalement en tendance de léger déstockage.
Avec un élément qui me paraît important, c'est de bien caractériser l'état initial, puisqu'en fonction de l'état initial, on va plutôt avoir facilement du stockage ou moins facilement du stockage.
Voilà, il y a une très forte sensibilité du modèle à l'état initial. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire une situation avec des stocks très élevés, c'est plus difficile de le maintenir, voire de rentrer dans une dynamique de stockage que si on est dans une situation initiale avec un stock qui est plutôt faible.
Voilà, on va clore cette session là-dessus. Je vous propose de remercier l'orateur. Voilà.